Si le vert fait, paraît-il, encore frémir quelques comédiens de théâtre, eh bien cette couleur est avant tout synonyme de vie. Elle rime avec la santé, l'écologie et la vitalité. Le vert, c'est la couleur de la chlorophylle, cette molécule inventée par le règne végétal et qui a permis aux êtres vivants d'exister. Le dossier de la tête au carré lui est consacré cet après-midi en partenariat avec la revue La Salamande pour explorer toutes les facettes de la couleur verte, depuis la linguistique jusqu'au monde végétal. Et j'attends dès maintenant vos questions et vos messages sur notre adresse, la tête au carré @radiofrance.com et sur le compte Twitter et Facebook de l'émission. Et puis en raison d'un mouvement de grève, il n'y aura pas de Une de la science aujourd'hui. Stéphanie Texier est aux commandes de l'émission préparée par Emmanuel Fournier.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Et du vert partout dans notre dossier donc cet après-midi avec mes invités très inspirés par cette couleur, la linguiste Annie Mollard-Desfours et Julien Perrault de la revue Nature La Salamande. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bienvenue Annie Mollard-Desfours. Nous parlions hier dans cette émission de la chance et du hasard. Le vert en est le symbole, hein ?
Il en est le symbole, oui, le hasard, donc dans le côté négatif ou le côté positif. Chance ou malchance.
Ouais. Depuis quand, en fait, on attribue cette couleur à la chance ?
Déjà au Moyen-Âge, c'était la couleur du hasard.
Voilà, un symbole de malchance ou de renouveau, puisqu'on va parler de ces différents aspects. Julien Perrault, il y a urgence du côté de la chlorophylle aujourd'hui sur la planète ?
Alors je pense que oui, peut-être pas ce printemps, parce qu'on a eu une météo tellement humide qu'on a eu un paysage en ce moment qui est exceptionnellement vert.
Ouais.
Donc c'est vrai que cette année c'est particulier, mais de manière générale, oui, je pense que la cause de la vie est une cause qu'on doit défendre.
Allez, on en parle avec vous dans quelques minutes pour explorer le vert avec les messages des auditeurs qui nous rejoignent. Et donc pas de Une de la science aujourd'hui en raison d'un mouvement de grève. On se retrouve donc dans une petite dizaine de minutes pour notre dossier.
D'un cliquetis sonore, le vent passe entre les dents et qu'il s'immisce et le temps de glace pilé de peur. Girouette au gré du vent, la rouille me fait liquide, me dissout et le temps emporte ce qui résiste. Emporte ce qui me reste, juste un grain de sable dans la mécanique, un grain de sable dans la mécanique. Je suis la danseuse dans la boîte à musique. Je suis la danseuse dans la boîte. Soupe de grimaces et de poison, je sens que la note est salée. Goutte que coûte, mélangeons, et puis du sable, une pincée. Un peu plus d'iode et je scintille, bouffie de ce qui brille. Je creuse et je m'enfouis, maille du filet, je te fuis, car la rouille attaque mes gestes d'automate. Girouette au gré du vent, la rouille me fait liquide, me dissout et le temps emporte ce qui résiste, emporte ce qui me reste. Reste un grain de sable dans la mécanique, juste un grain de sable dans la mécanique. Je suis la danseuse. Les miroirs alentour me reflètent à l'infini. Je ne sais plus laquelle de nous est l'authentique ou l'automate. L'automate dans cette boîte.
Affirmatif. Et qui d'autre? Brune, blonde, affirmatif. Et routine. Si j'ai quoi ? Affirmatif. Et quoi d'autre ? Si j'assume ? Affirmatif. Quoi ? Tout seul ? La technique ? Affirmatif. Du doigté ? Self-control ? Affirmatif. Comment ça ? Affirmatif. Et quoi d'autre ? Si j'aime ça, affirmatif. Quel côté ? Peu importe, affirmatif. Ce que je peux faire ? Obsédé, affirmatif, sexuel. Quoi d'autre ? Si j'assure, affirmatif. Quoi, tout seul ? La technique, affirmatif. Du doigté ? Self-control, affirmatif. Comment ça ? Affirmatif. Et quoi d'autre ? Si j'aime ça, affirmatif. Quel côté ? Peu importe, affirmatif. Ce que je préfère. Obsédé, affirmatif, sexuel.
Serge Gainsbourg sur France Inter. On retrouve la tête au carré à 14h19. Et le verre au cœur de notre dossier donc cet après-midi en partenariat avec la revue Nature La Salamandre qui lui consacre son dossier de une dans son numéro de juin-juillet. Et pour en parler, mes invités, Annie Mollard-Desfours, vous êtes linguiste au CNRS et administratrice du Centre français de la couleur qui fête ses 40 ans cette année. J'ignorais qu'il existait. Quelle est la vocation de cette association ?
Le Centre français de la couleur est une association loi 1901 qui rassemble, et c'est sa particularité, toutes les personnes s'intéressant à la couleur dans tous les domaines. Donc ça peut être des physiciens, des colorimétristes, des linguistes, des historiens, des designers, architectes, peintres. Et donc ces échanges entre nous qui donnent sa force au Centre français de la couleur et qui a une vocation tout à fait pluridisciplinaire. Ouais. Et je préciserai aussi que ce centre représente la France à l'Association internationale des couleurs.
Et donc ça existe aussi, voilà.
Oui.
Ouais. Et vous éditez une revue, hein.
Nous éditons une revue depuis donc 40 ans, mais avec des évolutions. Et donc, elle est actuellement une vraie revue avec des articles très divers. Il y a eu par exemple Couleurs Sensibles, qui était une revue qui rassemblait des articles dans tous les domaines, mmh, pour montrer notre pluridisciplinarité. Couleurs Espace, qui était dans un même thème, la couleur dans l'espace. Et le prochain sera Couleurs Plurielles, qui seront aussi très, très divers.
Et vous avez publié en 2002 justement le dictionnaire de la couleur consacré au vert, donc cette couleur, oui, qui nous intéresse aujourd'hui. Le plus récent est sorti il y a quelques mois, et c'est sur le gris, hein, puisque, oui, vous avez vraiment une palette très large de toutes ces couleurs. Julien Perrault, vous êtes le directeur et rédacteur en chef de la revue La Salamandre, revue que l'on ne trouve que par abonnement sur lasalamandre.net.
Salamandre.net.
Annie Mollard-Desfours, les couleurs. Importance majeure dans nos vies, évidemment.
Hein. Oui,
on
n'en
est pas
sûr
toujours conscient, mais elles sont là tout le temps.
Une importance capitale, hein. Et tout à fait le reflet d'une époque, d'une société particulière.
Le vert, il a justement cette couleur, un statut particulier pour notre culture occidentale, justement.
Oui, il a une valeur très particulière. C'est-à-dire que d'une couleur qui était quand même assez ambiguë et négative, il y a une montée d'une valorisation extrême.
Renversement de situation. Hein.
Voilà, ouais, par rapport à la nature, bien évidemment,
et
la défense de la planète.
À des valeurs, voilà, qui sont très à la mode en ce moment et qui inondent votre une de La Salamandre, Julien Perrault. C'est la couleur du vivant, hein, vraiment.
Ben oui, c'est le vivant par excellence, parce qu'en fait, aujourd'hui, je dirais que tout le fonctionnement de la planète Terre presque repose sur cette couleur. Et quand on pense à la planète Terre, on pense toujours à la planète bleue, mais, oui, en fait, la Terre est la planète verte par excellence.
Ouais, c'est vraiment la couleur la plus représentée dans la nature.
Oui, je pense, parce que c'est vrai que dans la biomasse de l'ensemble de la planète, les végétaux pèsent très lourd, les végétaux et les bactéries qui font aussi la photosynthèse. Et voilà, toutes ont de la chlorophylle, puisque c'est justement la substance presque un peu magique avec laquelle on peut récupérer l'énergie du soleil.
Ouais, c'est le super pigment. Donc,
exactement.
La chlorophylle, ça signifie feuille verte en grec,
oui,
hein, c'est ce qu'on peut apprendre dans votre dossier. Alors, comment ça fonctionne exactement? Ça permet de produire quoi, la chlorophylle? Et puis, dans l'histoire du vivant, comment tout,
oui,
ça est apparu?
Alors, en fait, la chlorophylle est une espèce d'antenne qui capte l'énergie du soleil et qui, avec cette énergie, est capable de réussir un prodige chimique qui est de casser en deux une molécule d'eau. Donc en dégageant un déchet qui est de l'oxygène. Donc au passage, c'est grâce aux plantes que nous pouvons respirer, oui, chaque seconde. Donc on peut leur en être un peu reconnaissant. Et puis, hormis cet oxygène, il reste des électrons et des protons énergétisés par cette lumière solaire qui vont être utilisés dans la suite de la photosynthèse pour produire de la matière vivante. Donc pour produire en fait des molécules de sucre, mmh, qui sont soit une source d'énergie pour nous évidemment, soit pour les plantes, la brique de base avec laquelle elles vont construire la cellulose et donc tous leurs organismes.
Ouais, donc 100% de l'oxygène, hein, est dû justement à cette photosynthèse.
Oui, on doit à la photosynthèse ce qu'on respire, mais aussi ce qu'on mange, ouais, directement ou indirectement, puisqu'on mange soit des plantes, soit des animaux qui eux-mêmes à un moment donné ont mangé des plantes.
Donc il faut imaginer que toutes ces feuilles des arbres renouvellent l'air que nous respirons en permanence.
Absolument. Et c'est vrai que c'est un prodige assez incroyable, parce qu'une feuille, une feuille d'arbre, bah, c'est fin comme une feuille de papier. Hein. Et à travers cette épaisseur, vous avez à la fois un panneau solaire entièrement biodégradable, ce qui n'est pas le cas encore de nos panneaux photovoltaïques, mmh, et en plus de ça, une usine chimique qui ensuite synthétise ces sucres. Donc c'est vrai que c'est assez prodigieux.
Et le vert inspire beaucoup, évidemment, ça vous pouvez le constater, j'imagine, au sein de l'association, les scientifiques comme les artistes. On va écouter un extrait du Rayon Vert, c'est Éric Rohmer, par exemple, en 1986.
Je peux croire à une chose, je peux croire aux cartes à jouer, aux petites cartes à jouer qu'on trouve dans la rue. Enfin, moi, je trouve des cartes à jouer dans la rue. Et ça signifie quelque chose à chaque fois. L'autre fois, chez ma sœur, j'ai trouvé quoi? Une petite dame de pique. Mmh. Ouais, la dame de pique, c'est mauvais.
Ah oui.
Et en plus, la carte était verte. Et ce qui est vachement bizarre, c'est que j'ai rencontré un médium, un copain à moi, qui m'a dit que le vert serait ma couleur de l'année. Et c'est vachement bizarre, parce que moi, depuis ça, enfin, c'est peut-être parce que je le remarque, hein, je rencontre toujours des petites choses vertes, tu vois. Alors là, je marche pour aller chez ma sœur, qu'est-ce que je vois pas? Une petite carte verte, tu vois, prennent un poteau vert, et moi, quoi? J'étais habillée en vert.
Déjà, le si ça se trouve, c'est un petit homme vert que tu vas retrouver.
Ah, mais c'est la couleur de l'espérance. Hein. Alors, c'est une bonne année.
Voilà, on peut mettre le vert à toutes les sauces, Annie Mollard-Desfours. Hein.
Ah oui, complètement.
Ouais.
Dans le meilleur et dans le pire.
Ouais, variation sur le même vert, donc, avec Éric Rohmer. Qu'est-ce que ça veut dire, justement, du point de vue de la teinte, le vert, hein?
Le vert est une teinte extrêmement difficile à cerner. Elle a été longtemps considérée comme... comme un jaune. Elle n'était pas différenciée du jaune ou même du bleu.
Ouais.
Et dans les représentations anciennes, par exemple, chez Aristote, les couleurs étaient représentées sur, entre le noir et le blanc, le rouge étant au centre,
ouais.
Et le vert était le jaune près du blanc, et le vert était après le rouge près du rouge. Donc on voit ces différences essentielles de l'appréhension de la couleur et des représentations symboliques et physiques.
À tel point que dans certaines langues, d'ailleurs, on ne dissocie pas le vert
le
du
vert
bleu.
Du bleu et du jaune aussi. Ouais. C'est qu'au Moyen-Âge, d'ailleurs, que le bleu verra son apparition dans cette liste des couleurs. Hein.
Ouais. En breton aussi, d'ailleurs, je crois.
Oui, hein. Glace.
Ça veut dire qu'on n'a pas de mot pour dire le vert ?
On a un mot qui veut dire plusieurs choses, c'est cela. Glace va pouvoir dire, d'après ce que les Bretons m'ont expliqué, un vert jaune, un gris, et on va pouvoir qualifier avec ce terme glace à la fois la mer, le ciel, mais aussi les prairies.
Ouais.
Et par contre, il y a un terme pour le vert électrique, qui est glen, je crois, ou glaire. Voilà. Donc des choses tout à fait surprenantes.
Ouais.
Dans beaucoup de langues, surtout dans les langues asiatiques, il y a ce mélange d'un mot pour le vert et le bleu, qui n'est pas différencié. Par exemple, en vietnamien, zang veut dire à la fois vert ou bleu. Et il y a eu d'ailleurs des tests qui ont, en faisant observé des palettes de couleurs, il se révèle que les langues qui n'ont pas différencié le vert et le bleu, le vert et le jaune, ne peuvent pas détecter l'intrus dans la palette des verts ou des jaunes. Ce qui est quand même très étonnant. On se dit, on voit tout pareil. Bon. Mais non. Donc là, c'est toute une réflexion qui est soulevée sur le rôle de la nomination. La nomination, donc la manière de catégoriser, influe la perception.
Ouais. Les choses vont changer avec Newton, justement, qui va donner un nouvel ordre aux couleurs.
Un ordre de couleurs, c'est donc avec Newton, vers 1660, que déjà le noir et le blanc sont ôtés de la liste des vraies couleurs, et que le vert va être considéré comme l'opposé du rouge.
C'est ça, donc on va le dissocier là, pour
on
le coup.
On va le dissocier, on va l'opposer, alors qu'autrefois il était représenté comme quelque chose de proche, et donc il va là prendre des valeurs complètement différentes qui vont d'ailleurs le valoriser, puisque le rouge interdit signal d'alarme, donc le vert va devenir autorisation, permission, liberté.
C'est le feu vert.
Feu vert, voilà,
en opposition
dans plein de domaines.
Ouais. Julien Perrault, la chlorophylle, alors racontez-nous un petit peu dans cette histoire du vivant, parce que c'est quand même une molécule absolument extraordinaire qui permet de capter l'énergie solaire. Comment ça s'est passé au tout début de la formation de la Terre, justement ?
Alors au début, il n'y avait évidemment pas de chlorophylle. Les premiers êtres vivants, d'ailleurs, dont on s'interroge encore sur l'apparition, se débrouillaient sans la lumière du soleil. Et c'était des bactéries très primitives qui avaient un métabolisme qui récupérait l'énergie de l'énergie géothermale. Et à un moment donné, certaines de ces bactéries ont trouvé le moyen, avec justement une première forme de chlorophylle assez primitive, de casser des molécules d'hydrogène ou d'acide sulfurique et d'en retirer de l'énergie. Et en fait, ça a été vraiment une grande révolution dans la vie, parce que du coup, ces êtres vivants ont pu énormément se disperser, se disséminer dans ces océans primitifs. Et l'étape suivante, ça a été quand certaines de ces bactéries, en combinant plusieurs molécules de chlorophylle ensemble, ont amplifié encore la force de cette antenne et sont parvenus à casser non pas du H2S mais du H2O.
Ouais. Donc c'est cette forme primitive de chlorophylle qui a donné naissance à tout ce processus avec la photosynthèse ensuite.
Voilà, exactement. Donc ces bactéries qui ont réussi à casser l'eau pour faire de l'énergie, elles se sont énormément développées. C'est les cyanobactéries qui fournissent encore aujourd'hui d'ailleurs la majorité de l'oxygène sur Terre. Elles sont très très abondantes dans les océans. Et ce qui est rigolo, c'est qu'à un moment donné, on est même arrivé à une catastrophe écologique majeure, parce qu'à force de produire de l'oxygène, toujours plus, toujours plus, toujours plus, un gaz qui est oxydant, qui est toxique, ça a provoqué une catastrophe écologique il y a 2,4 milliards d'années, qui a fait presque disparaître toutes les formes de vie sur Terre.
Ouais. Et heureusement, il en restait un petit peu pour que nous soyons ici aujourd'hui pour en parler avec le vert, donc au cœur de notre dossier, et vos messages sur notre adresse, latêteaucarré@radiofrance.com. Quelques souvenirs du tout début des années 80 avec Élie et Jacquenot, Élie Medeiros, donc à l'instant, main dans la main.
La tête carrée sur France Inter.
Annie Mollard-Défour, vous êtes linguiste au CNRS. Julien Perrault, vous êtes le directeur de la Salamandre. Et ensemble, nous parlons de la couleur verte avec les messages La tête au carré at radiofrance.com. Alors, dans ce numéro de la Salamandre, justement, Julien Perrault, vous nous proposez un petit voyage au centre de la feuille, dont on découvre qu'il s'agit d'une véritable usine en réalité.
Oui, alors ça bourdonne à fond dans la feuille. Ouais. C'est quelque chose d'incroyable. Donc, si vous prenez un bout de feuille et que vous le regardez à travers un microscope, vous allez voir des cellules vivantes, comme il y en a dans notre propre corps. Mmh. Sauf que ces cellules ont plusieurs particularités, en particulier qu'elles ont des espèces de petits pois verts qui sont même capables de s'orienter en fonction de la lumière. Et en fait, ces petits pois verts, c'est l'organe dans lequel a lieu la photosynthèse, et ce qu'on appelle les chloroplastes.
C'est quoi ? Est-ce qu'on pourrait comparer ça à des panneaux solaires ?
Oui, alors c'est à la fois un panneau solaire et une usine chimique. Parce que dans photosynthèse, vous avez la lumière, photo, et puis synthèse, ensuite, c'est tout le travail chimique pour, avec cette énergie, créer quelque chose de nouveau.
Ouais. Donc la feuille, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement fin, et c'est absolument biodégradable, évidemment.
Oui.
Et ça fonctionne donc comme cette usine, avec l'idée d'être exposée au maximum à la surface de la lumière.
Exactement. C'est pour ça que les feuilles sont fines, que les feuilles sont étendues. Et c'est aussi pour ça que les végétaux sont immobiles. Parce que quelque part, pour déployer le plus de surface possible, pour capter cette énergie solaire, il ne faut pas trop bouger.
Jean-Loup nous envoie ce message. Il nous dit « La chlorophylle, en réalité, n'est pas verte. Sa vraie couleur, c'est-à-dire la quantité d'énergie réfléchie, n'est pas dans le niveau du vert, mais dans celui de l'infrarouge. Proche couleur que nos yeux ne sont pas en mesure de voir. Le vert n'est que la seconde couleur des feuilles, suivie du jaune-orange, ce qui explique que les feuilles tirent à l'orange lors de la dégradation de la chlorophylle à l'automne. »
Alors, ce qu'il faut aussi distinguer, c'est les couleurs. En fait, la chlorophylle absorbe du rouge et du bleu, des longueurs d'onde du rouge et du bleu. Donc, c'est ça l'énergie qui est utilisée pour synthétiser les sucres. Et ce qui est renvoyé, c'est en particulier du vert, c'est ce qu'on voit.
Et Thierry nous dit, beaucoup de plantes possèdent des feuilles rouges ou foncées plutôt que vertes. Pourquoi ? Est-ce qu'elles résistent souvent très mal aux forts ensoleillements ? Est-ce
que c'est une raison on a par exemple sur les vieux murs des tas de petites plantes grasses qui s'appellent les orpins, qui ont des feuilles rouges. En fait, elles contiennent de la chlorophylle, mais il y a un autre pigment qui protège en fait cette usine chimique très fragile contre les rayons ultraviolets. Et cette protection, elle est rouge.
Alors, il y a un satellite américain dont vous parlez également dans ce numéro de la Salamandre, qui depuis 2011 est dédié, au fond, aux pulsations vertes de la nature, on peut dire les choses comme
exactement.
Ça.
Exactement. Donc, c'est le satellite Nuomi NPP qui a des caméras extrêmement sensibles qui sont dévolues justement à l'étude de cette couleur verte sur la Terre, à l'étude de cette très très fine pellicule, parce que sur les océans, dans les océans, au-delà de 70-80 mètres de profondeur, vous n'avez plus assez de lumière. Ouais. Sur les continents, c'est guère plus épais parce que les arbres même sont souvent beaucoup moins hauts. Donc c'est vraiment une pellicule extrêmement fine que ce satellite scrute en permanence pour détecter des sécheresses, des changements climatiques, poursuivre malheureusement aussi la déforestation.
Oui, donc effectivement, on voit vraiment avec cette carte, c'est très intéressant, la façon dont est répartie toute cette chlorophylle à la surface de notre planète. Donc ça donne des enseignements sur l'évolution à la vitesse grand V, d'ailleurs, de cette chlorophylle dont vous disiez tout à l'heure qu'il fallait absolument prendre soin.
Mais oui, parce que c'est un grand manteau finalement qui est à la base de tous les équilibres vivants, et c'est un manteau qu'on est en train de rapiécer, de casser, de miter, et à un moment donné ça nous met en danger.
Ça veut dire que le vert perd du terrain un peu partout sur la planète. Il n'y a pas du tout de renouvellement aujourd'hui.
Alors il faut voir encore de quel vert on parle, parce que si vous remplacez le vert d'une forêt tropicale humide par des verts de palmiers pour faire de l'huile de palme par exemple, ça n'aura pas la même qualité, c'est clair.
Ouais, en Suisse on bétonne aussi, comme en France d'ailleurs, de plus en plus. Vous avez une estimation aussi des pertes de végétation?
Ouais, alors j'avais lu une statistique, d'ailleurs pour les deux pays, le nombre de terrains de football qui se bétonnent chaque semaine, c'était très très impressionnant, et en surface, ça va très vite.
Et c'est le cas dans tous les pays d'Europe en ce moment. Annie Mollard-Défour, l'histoire est intéressante aussi autour de la couleur, il y a plein d'anecdotes autour des personnages célèbres par exemple.
Oui, on pourrait parler de Néron, qui adorait le vert, et il paraît qu'il...
C'était l'avocat de la couleur verte, il paraît. Pourquoi d'ailleurs
On ne sait pas exactement. En tout cas, il voulait même manger, soi-disant, beaucoup de poireaux pour donner de la force à sa voix, etc. Enfin, il y a plein de symboliques d'associations louées associés aux couleurs. Il y a aussi Napoléon, bien sûr, qui était fou de vert et qui a mis à la mode le vert empire ou vert empereur.
On va écouter une anecdote à ce sujet-là, oui. Si vous voulez bien, parce que je sens que vous allez raconter toute l'histoire, mais elle est là, dans la bouche également de Michel Pastoureau. Je vous ai arrêté à temps, c'est en septembre 2012, autour justement de la mort de Napoléon, qui a un lien direct, on va l'entendre, avec la couleur verte.
L'idée veut que Napoléon lui-même ait un goût personnel pour la couleur verte, et beaucoup de témoignages vont dans ce sens, non pas tant pour s'habiller que pour s'entourer de vert.
Sa redingote n'était pas verte ?
La redingote était plutôt grise ou gris-vert.
Gris-vert, oui.
Gris-vert, voilà. Mais à Sainte-Hélène, le cadre de vie de Napoléon était tendu de vert. Une légende veut d'ailleurs qu'il ait été empoisonné. On a retrouvé dans ses cheveux et sous ses ongles de l'arsenic. C'est probablement de l'arsenic qui vient des papiers peints et des tentures vertes de sa maison de Longwood. Et il est probable que ces vapeurs d'arsenic qui, sous le climat humide de Sainte-Hélène, envahissaient les pièces, ont nui à la santé de l'empereur, ça c'est certain.
Vous vous rendez compte, le vert aurait tué Napoléon, sa couleur préférée.
Et donc ce vert-là, qui est en fin de compte souvent un poison, est lié à la difficulté d'obtenir le vert et donc de le fixer avec des produits nocifs. Oui. Ce qui explique aussi cette idée de hasard, puisque le vert, on ne savait pas quelle nuance exacte on allait obtenir. C'était un vert qui ne tenait pas, il était fait au départ avec des végétaux. C'était un vert qui jaunissait avec l'air et les éléments atmosphériques. Et donc il y a cette idée de hasard qui est liée déjà à l'histoire des matières colorantes.
Il y a beaucoup de variations donc sur le vert, hein. Oui. C'est vraiment toutes les symboliques autour de cette couleur. C'est peut-être d'ailleurs la couleur qui a le plus changé, en tout cas au niveau de ses symboles.
Elle a beaucoup changé. Il y en a une autre qui a beaucoup changé aussi. On pourrait parler du noir, de ce renversement aussi de valeur, hein, où le noir est devenu une couleur de luxe, une couleur classique, une couleur que tout le monde peut porter, donc multicode. Hein. En effaçant toutes ces connotations négatives de cette couleur qui était quand même le deuil, la mort, l'enfer, etc. Hein. Donc, et qui devient un noir lumière. Hein. Le vert est très ambigu, mais il n'est pas plus que d'autres couleurs. Hein. Ce qui est spécifique, c'est la difficulté à cerner la nuance pour beaucoup de langues, pour beaucoup de dans notre langue française aussi. Hein, où il y a des termes, je pense par exemple à turquoise. Pour la jeune génération, turquoise, c'est plutôt un bleu vert qu'un vert.
C'est vrai.
Il y aurait des évolutions aussi comme ça et des termes comme je dis citron vert. On est exactement, on est à cette limite entre le jaune et le vert. Et c'est cette difficulté à fixer le vert, à le percevoir même, à le nommer, qui explique toutes ces ambiguïtés.
Julien Perrault, le turban de Mahomet, petite anecdote également dans la salamandre.
Oui, mais ce qui est amusant de voir, c'est que le vert est très rare dans la Bible. Il est quasiment absent du Coran, mais effectivement, on prête à Mahomet le goût pour cette couleur verte. Et très vite, il semblerait qu'il soit parti à la guerre avec un emblème vert. Ce qui a associé cette couleur à la famille du prophète, puis finalement à la religion musulmane. Et c'est devenu une couleur sacrée.
Ouais. Annie Mollard des Fourdons.
C'est le vert oasis aussi, peut-être, qui est évoqué. Et d'ailleurs, on trouve ce vert de nos jours où on dit vert Éden. Il y a aussi toutes ces références bibliques, hein, le vert paradis, le vert pâturage, et cette valorisation de ce lieu idéal et naturel.
Ouais, et ben ça, c'est resté pour le coup, hein, parce que l'écologie s'en est emparée. Hein.
Et ça, c'est un retour en force justement de cet Éden idéal.
Et tant qu'à faire, il faut tout repeindre en vert aujourd'hui. C'est aussi un argument publicitaire,
pour la meilleure et pour le pire.
Voire politique aussi. Hein.
C'est le greenwashing de la publicité, hein. C'est le lavage vert et cette couche de vert que l'on met partout pour mieux vendre.
C'est ça, il y a des marques qui changent leur code couleur aussi pour passer du rouge, tiens, par exemple, je pense à une grande marque de fast-food, au vert,
hein, pour... J'ai vu des publicités Coca-Cola aussi, mais je pense que c'était une idée, mais qui était verte. Il y a aussi les codes des boissons, hein, par exemple le vert menthe, le vert fraîcheur, qui vont évoluer pour devenir la menthe plus fraîche d'un bleuté glacial. Donc il y a plein de codes de la couleur. Ouais. Hein, faut poser la question au début de l'importance des couleurs. La couleur, elle est partout, elle est même dans ces codes qui sont sociaux souvent, hein, qui sont fabriqués.
Le vert couleur de la vie, couleur de la nature, couleur de l'écologie. Et puis à l'inverse, on a aussi la couleur de la mort, ça vous le disiez, c'est la couleur de la maladie, c'est la couleur des sécrétions, des moisissures, la putréfaction, on a aussi tout ça.
C'est
hein,
la couleur du cadavre,
dans le vert, hein.
C'est ce chloros grec hein, qui qualifiait notamment le cheval d'un des cavaliers de l'Apocalypse, chevauché par la mort ou par la peste, qui était donc chloros, ce qui signifiait jaune verdâtre, pâle, blême, on trouve dans les traductions le cheval blême ou pâle de la mort, etc. Donc on voit que ce terme chloros, qui revient à nos discussions du début, sur la difficulté de nommer le vert, était quelque chose d'extrêmement compliqué. Ouais. Et dans les traductions, on trouve le cheval vert de la mort, le cheval blanc de la mort, le cheval blême ou pâle. Ouais. À ne pas confondre avec le cheval blanc brillant qui est au contraire la monture des héros.
Toutes les nuances de vert. Donc cet après-midi dans notre dossier, dernière partie dans un instant et toujours vos messages sur la tête au carré à radiofrance.com.
porter du vert.
J'aime beaucoup le rouge et c'est la couleur du théâtre. Le vert est plus fortuit et il n'est pas comme on pourrait le craindre, provocation, puisque on le sait dans cette maison, sur la scène en tout cas, le vert est pratiquement interdit puisque Molière, Alceste, l'homme au ruban vert, il n'y a que lui qui pouvait porter du vert. Voilà. L'interdit s'est aménagé, mais c'est vrai que dans cette maison, si le rouge et l'or sont les couleurs premières, le vert reste une couleur relativement suspecte.
Voilà, Jacques Lassalle, qui était administrateur de la Comédie-Française en 1993, à Nîmes-Mollard-Défour, hein, sur justement la légende du vert, toujours tenace hein, dans le milieu du théâtre.
Et par rapport à Molière, d'autant plus que, je vois le malade imaginaire, il est mort quelques temps après, presque sur scène.
Ouais. Mais ça remonte à très longtemps, en fait,
cette
peur du vert, c'est ce que vous expliquez tout à l'heure, depuis le Moyen-Âge, en fait.
Depuis le Moyen-Âge, c'était quand même la couleur des sorcières, des magiciennes, dont... En fin de compte, le vert, c'est une sorte de seuil entre le naturel et l'autre monde, hein, une sorte de passage, de seuil. Et donc, ces êtres-là étaient censés avoir des pouvoirs surnaturels, et avec des pouvoirs des fois maléfiques. Hein. Et donc, on dit d'ailleurs encore en argot du cyclisme, quand on a eu la poisse, voir la sorcière aux dents vertes, il y a tout cet imaginaire qu'on retrouve encore de nos jours, hein, dans des expressions comme cela.
Ouais. Et heureusement, tous les artistes n'ont pas peur du vert, comme Patrick Blanc qui signe la préface justement de ce dictionnaire sur le vert, sorti au Scénarios Éditions.
On appelle d'ailleurs l'homme vert,
ses cheveux verts. Il le porte sur ses ongles aussi.
Ses ongles, oui, et qui donc crée des murs végétaux extraordinaires.
Julien Perrault, chez les animaux, alors là, la couleur verte, c'est aussi assez amusant parce que ça sert de vrai camouflage.
Oui, puis en même temps, ce qui est étonnant, et ça rejoint ce que vous disiez avant, c'est que le vert est une couleur que l'homme a eu beaucoup de peine à fixer sur des habits, sur des étoffes, sur des œuvres d'art. Et les animaux ont un peu le même problème, parce que le vert est omniprésent dans la nature, il est porté par les végétaux, mais les animaux, par définition, n'ont pas de chlorophylle.
Ouais. Alors comment ils arrivent à fabriquer ce vert pour se planquer, ou pour séduire aussi d'ailleurs
hein. Alors c'est surtout pour se planquer, soit qu'on veuille se protéger, soit qu'on veuille attaquer par surprise. Mais dans les deux cas, effectivement, c'est une difficulté. Et en général, les animaux la résolvent en combinant plusieurs couleurs, ce qu'on a aussi pratiqué au Moyen-Âge avec les teintures. Par exemple, en combinant un jaune produit par exemple avec de la mélanine, qui est un pigment que nous avons dans notre corps, avec du bleu. En mélangeant du jaune et du bleu, on fait du vert. Et pour se procurer le bleu, eh bien, les colorants bleus sont aussi assez rares dans le monde animal. Donc là, on utilise des jeux de couleurs. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle les couleurs structurales. C'est des cristaux microscopiques dans certaines cellules spécialisées qui réfléchissent.
C'est de la géométrie, en fait. Hein. C'est des arrangements de la géométrie.
Purement géométrique. Ouais. Et c'est ça qui explique, par exemple, l'éclat des yeux des plumes des paons, ou la couleur de certains poissons. Et par conséquent aussi, si vous pensez au caméléon, par exemple, il est vert parce que il a des cristaux qui renvoient le bleu et qu'il a des pigments jaunes.
Oui, donc ce sont des miroirs, hein,
exactement,
très sélectifs, qui arrivent donc par la magie de la nature quand même.
Exactement.
Hein,
alors dans les animaux très quand même qui ont marqué notre histoire, c'est quand même le serpent, hein, le serpent qui est vert et qui est vraiment la personnalisation du mal et de quelque chose de tout à fait néfaste qui nous entraîne à notre perte.
Et le caméléon est mieux connu grâce à vos compatriotes suisses d'ailleurs.
Il y a eu pas mal de découvertes qui ont été faites sur le caméléon. Donc, on savait que c'était une combinaison du bleu et du vert. On sait aussi que le caméléon, en fait, change facilement de couleur pour refléter ses émotions.
Oui.
Et que c'est probablement plus ça, la source de ces variations de couleur qu'initialement un camouflage. Et ce que des chercheurs suisses ont découvert, c'est que sous cette couleur jaune et bleue, il y a d'autres cristaux plus grands dans la profondeur de la peau du caméléon qui renvoient l'infrarouge.
Incroyable.
Et qui donc permettent au caméléon de se protéger de la chaleur. Sous les tropiques, par exemple, de renvoyer près de 40% de la chaleur qu'il reçoit, il la renvoie à l'extérieur pour se rafraîchir.
Et le vert luisant aussi, hein, il y a un rapport aussi direct avec la lumière verdâtre.
C'est vrai, la lumière verdâtre du vert luisant qui est une lumière extraordinaire parce que c'est une lumière froide qui ne produit pas de chaleur, donc ça peut nous inspirer aussi pour nos éclairages, et qui est produite par une enzyme qui s'appelle la luciférase, qui a un nom...
Qui porte bien son nom.
Voilà, prédestinée, et qui effectivement produit une teinte verte caractéristique.
Ouais. Chez nos confrères du Monde, dont vous avez un spécimen, Pierre Barthélémy, en face de vous, justement, à Nîmes-Mollard-Défour, vous avez lu un article récent, c'est ça qui préconisait d'utiliser la lumière verte pour chasser quoi,
chasser les puces de lit et la migraine aussi.
Et là, pour soigner aussi la migraine.
Et soigner la migraine.
Voilà. Ça vous dit rien, Pierre Barthélémy?
Je reviens juste à une petite remarque. C'est Lucifer, évidemment. C'est celui qui porte la lumière aussi. C'est pas forcément une connotation mauvaise.
Oui, mais on le disait tout à l'heure, en tout cas. C'est vrai que c'était aussi.
Lucifer, on le représente souvent avec des yeux verdâtres.
Ouais.
Et il portait une émeraude, donc verte.
Voilà.
Julien Perrault, les cas hybrides entre plantes et animaux, alors ça aussi c'est assez étonnant.
Oui, alors ça c'est incroyable, parce que c'est vrai que vous avez par exemple une limace de mer en Amérique du Nord qui se nourrit exclusivement d'une algue verte. Le problème c'est que cette algue n'existe qu'un mois par année.
Ah oui, c'est embêtant. Ouais.
C'est embêtant. Donc le reste de l'année, comme cette limace elle n'a pas de congélateur, en fait elle incorpore les petits organes qui produisent la chlorophylle, donc les chloroplastes, dans les cellules de son intestin. Et par conséquent, elle les stocke, ouais. Elle les maintient vivantes, et par conséquent, cette limace, évidemment aplatie comme une feuille, évidemment verte, elle est capable de tenir presque une année sans se nourrir. Mmh. Et elle a même incorporé des gènes de la plante, enfin de ces algues, dans son génome pour pouvoir les maintenir vivantes.
Ouais. Vous citez le corail, le double corail aussi, c'est ça ?
Ben oui, la plupart des coraux, en fait, sont une association entre des polypes, des minuscules animaux unicellulaires, et des algues. Et en fait, effectivement, c'est une alliance qui permet la construction du récif de corail.
Alors malheureusement, on n'a pas de médecin avec nous aujourd'hui. On a une question de Patricia et les maladies de la perception de la couleur. Pose-t-elle comme question sur franceinter.fr. Je suis achromate, je n'ai pas les cônes pour voir la couleur, mais les bâtonnets qui sont destinés, m'a-t-on dit, au noir et blanc. Et la vision vespérale. Voilà, je ne sais pas si vous avez des éléments de réponse là-dessus, Julien Perrault.
Bah, il y a plusieurs maladies génétiques. Il y a aussi différents cas de daltonisme, oui, plus ou moins sévère, effectivement. Moi, par exemple, j'ai beaucoup de peine à repérer les fraises des bois.
Dommage. Effectivement. Animolard des fours, donc le vert, ça fait l'objet d'un dictionnaire, tout comme beaucoup d'autres couleurs, puisque vous en avez signé un certain nombre aux éditions du CNRS. La dernière en date est le gris.
Le gris.
Ouais. Il y a beaucoup de choses à dire aussi sur cette couleur.
C'est une couleur complètement fascinante, puisque des gens se demandent si c'est une couleur. Hein. C'est une couleur entre le noir et le blanc et qui va varier sur cet axe de la clarté, et donc va varier presque proche du blanc au noir, mais qui va être aussi toute désaturation de toute couleur. Et donc pour Goethe, elle est d'ailleurs le centre et le de toutes les couleurs.
Voilà, et c'est un livre qui est sorti il y a quelques mois à peine au CNRS édition. En attendant, lasalamandre.net pour s'abonner à La Salamandre, pour les grands comme pour les petits, parce que vous avez la version junior, comme à chaque fois Julien Perrault, en déclinaison de La Force Verte. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci.
Merci.
La chronique de Pierre Barthélémy, en partenariat avec le supplément Science et Médecine du Monde.
On reste un petit peu dans le végétal avec vous, Pierre Barthélémy. Vous nous parlez du poil là, aujourd'hui.
Oui, parce que pour cette dernière chronique avant les vacances, il faut parler de choses sérieuses.
Ça va nous changer.
Voilà, depuis 6 mois, je dis des bêtises et vous me laissez faire.
Oui.
La tyrannie des apparences a triomphé. Le paraître l'a emporté sur l'être. La preuve nous en est donnée par le poil. Des hordes de hipsters avec leurs barbes taillées au micron près ont envahi nos magazines et nos studios de radio, n'est-ce pas Mathieu ?
Oui, oui.
Les footballeurs imposent leurs excentricités capillaires et la mode du string a fait des ravages dans les toisons de ces dames, au point que le monde Vénus se confond de plus en plus avec le mont Chauve. Alors les diktats esthétiques font la loi, y compris dans la culotte de ces messieurs. Ils avaient beau dire depuis la nuit des temps que la taille ne faisait pas tout. Les hommes ont vu, avec la démocratisation du porno, des dimensions standards s'imposer à leur pénis qui s'en serait bien passé. Au point que, selon une étude de 2008, la taille de la verge était le troisième motif d'insatisfaction physique chez la gent masculine.
Allons bon.
Ce nouveau complexe fait la fortune des marchands de gonflettes péniennes. On ne compte plus les inventions dignes du concours Lépine, le bien nommé, qui cherchent à faire gagner quelques centimètres à la bébête. Des poids à attacher pour étirer, des pompes, des pilules aux herbes, etc.
Et alors, où est la science dans tout ça? Je la cherche, Pierre Barthélémy.
J'y viens. Un célèbre marchand de rasoirs a proposé une astuce moins risquée pour agrandir Popol. Le rasage du pubis avec un slogan affirmant, je cite, que sans buisson, voilà la végétation, sans buisson dessous, l'arbre semble plus grand.
Oh, quel beau slogan.
Voilà, tailler le taillis pour créer une illusion d'optique donc. Il se trouve que la vidéo qui accompagnait cette campagne publicitaire a attiré des millions de personnes sur YouTube et qu'un chercheur britannique, Matthew Hall, a décidé de de passer au tamis les 5000 commentaires laissés par les internautes pour analyser la manière dont les hommes justifiaient l'abandon du poil dans l'imagerie du mâle moderne.
Qu'est-ce que ça a donné alors les conclusions de cette très étude, très sérieuse étude ?
Ça a donné un grand moment d'hypocrisie. Dans son étude publiée en décembre 2015, Matthew Hall a constaté que les commentateurs ont dans l'ensemble bien pris garde à ne pas mettre la délicate question des dimensions au centre du débat. Ils ont fait croire que le rasage du pubis était avant tout un problème d'hygiène, d'esthétique, voire un effort pour l'égalité des sexes. Un internaute demande ainsi « Eh, pourquoi que les femmes elles devraient faire le ménage en bas et pas les hommes ? C'est le respect. Bienvenue dans le 21e siècle. » En conclusion de cette analyse sociologique, Matthew Hall note que les hommes modernes sont obligés de reformuler le discours sur leur corps masculin pour y intégrer des pratiques importées du monde des femmes tout en restant viril. Oui, bienvenue dans le 21e siècle.
Et on retrouve cette chronique dans le supplément Sciences et Médecine du Monde qui sort aujourd'hui. Quoi d'autre au menu de ce supplément, Pierre ?
Un grand reportage au Centre d'études biologiques de Chizé dans les Deux-Sèvres où on analyse les interactions entre la production agricole et l'environnement.
Merci beaucoup, Pierre. Bonne saison à vous.